Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très bonne année à chacun. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse notre Église et qu'il se glorifie dans chacune de nos vies. C'est notre souhait. Peut-être comme vous, ça a été l'occasion de revoir de la famille ces jours-ci. Moi, j'ai revu mes petits-enfants et notamment ma petite-fille, 3 ans. C'est l'âge où elle nous trouve des bonnes expressions, des bons mots, et elle répète tout ce qu'elle découvre. Et l'autre jour, elle avait découvert une nouvelle expression, c'est « j'ai une bonne nouvelle ». Elle a préparé la fête de Noël, et dans la fête de Noël, il y a les anges qui annoncent, l'ange annonce « j'ai une bonne nouvelle ». Ne craignez pas, j'ai une bonne nouvelle. Alors, papichou, j'ai une bonne nouvelle. On va manger de la glace. Alors voilà, et une bonne nouvelle. On a une bonne nouvelle. Pour commencer cette année, on voudrait étudier l'évangile de Marc. Et je vous invite à chercher dans votre Bible l'évangile de Marc, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Marc, c'est le fils d'une femme influente de l'église de Jérusalem. Il a été témoin de la dernière semaine de vie de notre Seigneur à Jérusalem. Il était témoin de sa mort, de sa résurrection. Et Marc fait mention à la fin de l'évangile de l'arrestation. Lors de l'arrestation de Jésus, il fait mention d'un jeune homme qui était vêtu simplement d'un drap et qui s'est sauvé. Et quand on l'a voulu l'arrêter, on lui a attrapé le drap, il est parti tout nu. Certainement avec rien que ses sous-vêtements. Et on pense que, en tout cas beaucoup pensent que cet incident qui n'est rapporté que dans l'évangile de Marc est comme la signature de Marc sans qu'il ne voulait pas inclure son propre nom. Il s'est certainement, Marc, converti par le témoignage et le ministère de l'apôtre Pierre. Pierre l'appelle son fils, mon fils, en 1 Pierre chapitre 5 verset 13, et il lui est resté très attaché. Et on pense qu'avec d'autres, et notamment avec Papias, qui est un des pères de l'Église, 60 à 135 après Jésus-Christ, un ami personnel de l'apôtre Jean, il dit que Marc s'est appuyé sur le témoignage de Pierre pour retranscrire, je cite, avec exactitude tout ce dont il se souvenait et ce qui avait été dit ou fait par le Seigneur. Alors Marc est vraiment qualifié pour nous raconter la bonne nouvelle de Jésus. Marc a écrit aux alentours de 65 et c'était aussi l'époque du martyr de l'apôtre Pierre. Il écrit depuis Rome, principalement pour les Romains, en tout cas ses premiers lecteurs c'était des Romains. Et puis il répond dans son livre à ces questions, qui est Jésus et puis comment le suivre. Alors je vous invite à lire le début de l'évangile de Marc, chapitre 1, le verset 1, on va lire jusqu'au verset 20. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin ». C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers !» Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, vint Jésus de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils, bien-aimé, En toi, j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père, Zébédée, dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. Marc ne perd pas de temps pour répondre à la première question. Qui est Jésus ? Il commence au verset 1 en disant « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. » Christ, ça veut dire Messie. Jésus est le Messie, il est le fils de Dieu. Vous avez déjà la réponse à la première question dans le premier verset. C'est la conclusion à laquelle arrivera à la fin du livre le centenier qui présidait à l'exécution de Jésus-Christ. Voyant comment Christ mourut sur la croix, il dit « En vérité, assurément, cet homme était fils de Dieu. » Et c'est précisément à cette même conclusion que Marc voudrait nous amener, à cette même confession que Marc voudrait nous amener à faire. Ces dernières semaines, vous avez peut-être comme moi attendu un colis, une bonne nouvelle. Vous avez reçu peut-être un SMS qui vous préparait. Votre colis a été expédié. Le colis est finalement arrivé. Vous avez ouvert, vous avez vérifié l'état du colis, la taille, la couleur, je ne sais pas, et puis vous l'avez adopté. C'est un peu ainsi que Marc commence son évangile. On va voir que la bonne nouvelle est arrivée, on verra ensuite que la bonne nouvelle est authentifiée, et puis enfin que la bonne nouvelle a été adoptée. Commençons avec ce premier point, la bonne nouvelle est arrivée. Au fond, c'est ce que Marc dit dans les premiers versets. Commencement de l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le terme évangile était déjà employé à l'époque. C'est un évangile, au fond, c'est ma petite fille l'a bien compris, était le récit d'un événement qui changeait l'histoire de manière significative. Il pouvait s'agir, par exemple, d'un couronnement ou d'une victoire militaire. Lors d'une victoire, par exemple, on envoyait des héros, H-E-R-A-U-T-S, ou des évangélistes, porteurs de la bonne nouvelle, pour proclamer la bonne nouvelle, l'évangile, aux différentes villes. La bataille a été remportée. Nous avons gagné. Désormais, vous n'êtes plus esclaves. Vous êtes libre. Un évangile est donc l'annonce d'un fait historique accompli, de quelque chose qui a été fait dans notre intérêt et qui change notre statut à jamais. Voilà ce que c'est qu'un évangile. La différence entre le christianisme et les autres religions, ou l'absence de religion, est évidente. Comme l'écrit Tim Keller, il dit « Les autres religions sont faites de conseils. Le christianisme est essentiellement une bonne nouvelle. Les religions disent « Voici ce que vous devez faire pour vous approcher de Dieu. Voici comment vivre pour gagner le salut. » Mais l'Évangile dit « Voici ce qui a été fait à un moment précis. » Voici ce que Jésus a fait pour vous obtenir le salut. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, elle était prophétisée depuis longtemps. C'était comme le SMS. Votre colis est en route, la bonne nouvelle est en route. Marc cite Ésaïe ici, le prophète de l'Éternel, un prophète qui a vécu 700 ans avant Jésus-Christ. Il a régné, il a prophétisé pendant le règne de 4 rois, et le 4e de ces rois, Ézéchias, était un roi remarquable à bien des aspects, mais au fond un roi qui n'était quand même pas à la hauteur, comme aucun d'ailleurs de ses prédécesseurs. Et donc, à la fin, au milieu plutôt du livre d'Ésaïe, après avoir parlé pendant 39 chapitres de jugement et de reproches à l'égard du peuple et des rois qui n'ont pas suivi l'Éternel, Ésaïe annonce de la part de l'Éternel des temps très durs et l'invasion du pays par les Babyloniens et finalement la déportation du peuple à Babylone, et notamment des descendants du roi Ézéchias. Le pays va toucher le fond, c'est cela ce qu'il annonce. Et c'est d'une certaine manière ce que vivent les Juifs de l'époque de Jésus. Ils sont dominés par l'Empire romain. Ils touchent le fond. Mais voilà comment poursuit Ésaïe de la part de l'Éternel. Et j'aimerais vous faire la lecture. Ésaïe 40. Juste après ces 39 chapitres de souffrance, voilà comment il commence, comment il poursuit. On aurait pu imaginer qu'il allait leur dire « ça va être la galère, ça va être la galère, vous allez partir à Babylone ». Regardez ce qu'il dit. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. » Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée et que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et regardez encore, une voix crie, et une voix dit, crie. Et il répond, que crierai-je? Voilà ce qu'il doit crier. Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de Dieu demeure, subsiste éternellement. Il est en train de dire, ma parole. Le message que je vous envoie, l'envoi de la bonne nouvelle, c'est sûr, l'homme passe, il va passer comme l'herbe, mais sa parole est certaine, vous pouvez vous confier en elle. Et voilà ce qu'elle dit, verset 9, monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec toi, avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Imaginez. L'évangile de Marc, les premiers lecteurs qui lisent, voilà, leurs frères et sœurs sont mis à mort dans les arènes de Rome. Et ils lisent, voici la bonne nouvelle. Voici votre Dieu. Voici cette voix qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Ça, c'est Jean-Baptiste. Verset 4, Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. C'était une habitude à l'époque, lorsqu'un roi se déplaçait, de faciliter, que d'envoyer un messager devant lui pour qu'il enlève tout obstacle sur le chemin, qu'il fasse aménager une route, redresser des voies, combler des trous, les vallées tortueuses, aplanir les montagnes pour préparer la venue d'un roi. Aujourd'hui, le président, il a des motards qui roulent devant lui, qui lui ouvrent la voie. Et Jean, c'est le motard. Pour préparer le chemin du Seigneur. Et comment est-ce qu'il prépare le chemin du Seigneur? Il prêche la repentance. Jean, il montrait aux hommes que c'est le péché qui est leur grand malheur et leur grand ennemi. Et que par conséquent, ils ont besoin d'être délivrés et guéris du péché. Et ce que le Fils de Dieu seul peut faire. Il invitait le peuple de Dieu à se faire baptiser en signe de leur repentance. C'est-à-dire, il reconnaissait « Je suis un pécheur. Je ne suis pas comme je devrais être. Je mérite le jugement. J'ai besoin d'un sauveur. » Voilà ce que c'est que de préparer le chemin du Seigneur dans nos cœurs. Reconnaître notre état. Voilà ce que c'est que d'avoir un cœur préparé. Voilà le gros chantier que Dieu opère. Voilà les montagnes qui doivent être abaissées. Voilà les vallées qui doivent être comblées. Lorsqu'une personne reconnaît, réalise son état de pécheur, alors son cœur est alors prêt pour recevoir la bonne nouvelle. Et au verset 5, on voit ici tout le pays, oh que ça soit pour notre ville, tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Au verset 6, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, qu'il y a plus de prophètes aujourd'hui. Personne ne veut avoir ce look. Mais ce look, il nous fait immédiatement penser à Élie, le prophète, qui était lui aussi vêtu d'un manteau de poil et d'une ceinture de cuir. Et là, on réalise, ah mais Élie est celui qui devait venir. Si vous avez lu l'Ancien Testament, comme les premiers lecteurs de l'Évangile, vous avez terminé en Malachie, chapitre 4, verset 5, qui dit « Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. » Élie est déjà mort depuis longtemps, ou il est monté au ciel depuis longtemps. Mais cet Élie dont Malachie parle, c'est Jean-Baptiste. D'ailleurs, l'ange qui a annoncé la naissance de Jean-Baptiste à son père a dit « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. » Et son message, au verset 7, il dit « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses sandales. » Il annonce la venue du roi infiniment plus grand que lui, le Messie qui lui sera bien supérieur. Il se sent complètement indigne d'être le plus petit des serviteurs du Très-Haut. Hein, délier et nettoyer les sandales, c'était le travail du plus modeste serviteur. Leur ministère à Jean-Baptiste Jésus, il y a des côtés semblables et puis il y a aussi des côtés tellement différents. Ils sont semblables dans l'annonce de cette bonne nouvelle. Mais Jean-Baptiste, lui, il est un prophète et il dit « Moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, il vous baptisera non pas d'eau, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Il vous baptisera du Saint-Esprit, c'est-à-dire il rendra à vos cœurs la vie. Jésus est Dieu, il est le seul qui puisse pardonner les péchés et redonner la vie véritable en répandant son esprit dans nos cœurs. La bonne nouvelle est arrivée, le roi est là, nous n'avons plus besoin d'attendre. Mais la question qu'on pourrait se dire, et c'était celle même de Jean-Baptiste, c'était « Est-ce bien lui ? » Est-ce bien lui ? Et c'est pour ça que la bonne nouvelle est authentifiée juste après. En ce temps-là, verset 9, Jésus vint de Nazareth et se fait baptiser par Jean. Vous avez remarqué que ici Marc n'évoque pas les raisons de son baptême. C'était un baptême de repentance pour le pardon des péchés, en vue du pardon des péchés. Jésus est sans péché. Il est celui qui est le bien-aimé, en qui Dieu a toute son affection. Il n'y a pas de péché, mais il accomplit quand même. Marc ne donne aucune explication. Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui vient après qui est capital pour lui. Les cieux s'ouvrirent et l'Esprit descendit sur Jésus comme une colombe. Et la voix se fait entendre du ciel. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Jésus est identifié comme Dieu le Fils, par le Saint-Esprit et par la voix du Père. Quand on pense à cela, pour les lecteurs d'Ésaïe, ça fait tout de suite écho au chapitre 42 d'Ésaïe. Ésaïe 42 commence avec ce verset. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. » Vous voyez la chose là, j'ai mis mon esprit sur lui et l'Esprit Saint descend sur Jésus. La voix fait entendre, tu es mon fils bien-aimé, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Et ça, c'est l'authentification du Messie, l'authentification de Dieu le Fils par le Père et par le Saint-Esprit, comme Ésaïe l'avait annoncé en parlant du serviteur souffrant. Dans la suite d'Ésaïe 42, il est dit au verset 6 et 7, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé, toujours parlant du serviteur souffrant, moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Et Jésus-Christ, précisément, va être authentifié comme le Messie, comme le serviteur souffrant, dans les versets et dans les chapitres qui vont suivre de l'évangile de Marc, à cause, précisément, de ses œuvres. C'est lui qui va ouvrir les yeux des aveugles, qui va guérir le lépreux, qui va ressusciter les morts, qui va nourrir les foules, qui va délivrer les hommes des démons, de leur prison. Verset 12, aussitôt, et ça c'est un mot qui se retrouve 40 fois dans cet évangile et qui lui donne son rythme vif, l'esprit le pousse dans le désert où il va passer 40 jours tenté par Satan. Et là encore, il y a une grande sobriété dans le récit, il n'y a pas de détails chez Marc, mais nous pouvons noter que Satan lui-même a reconnu Jésus comme le Christ, le Fils de Dieu. Et une menace, il le reconnaît pour être une menace contre ses intérêts. Nul autre que Jésus n'a connu les attaques aussi puissantes de Satan. Voilà qui le qualifie pour sa mission. Il a triomphé de toutes les tentations, de toutes les ruses du diable dans lesquelles nous sommes, nous, tombés. Il n'a commis aucun péché. Et voilà ce qui doit nous faire reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu. Enfin, les anges le servaient. Eux aussi ont identifié Jésus comme le Messie, le Sauveur. Ils sont fiables, les anges, parce qu'ils ont servi Christ dans toute l'éternité passée. Dans le ciel, ils ont célébré sa gloire, sa louange. Et maintenant, ils le servent dans son humilité. Au verset 13, il y a un détail qui nous est donné seulement en Marc. Il dit qu'il était avec les bêtes sauvages. Et les commentateurs ne sont pas tous d'accord sur le sens de cette expression ou de ce que ça signifie. Certains y voient un encouragement pour les chrétiens de Rome qui étaient persécutés et dont certains frères avaient été jetés aux bêtes féroces dans les arènes. Dans ce cas, Jésus a connu la même épreuve et peut donc aussi les secourir dans leur détresse, qu'ils ferment la bouche des lions ou pas. D'autres y voient une image de la solitude de l'horreur et du danger que représente le désert. Le fait que les bêtes sauvages soient associées dans la même phrase aux anges pourrait laisser entendre que la création le reconnaissait comme le roi qui rétablira l'harmonie. Dans ce cas, on pourrait dire que les bêtes sauvages, en ne dévorant pas Jésus, reconnaissaient et authentifiaient sa seigneurie, comme Satan et les anges lors de la tentation, et comme le Père et le Saint-Esprit lors de son baptême. La bonne nouvelle est authentifiée. Jésus-Christ est bien le Messie, le roi qui sauve. Il faut maintenant le suivre. Et ça, c'est notre troisième point. La bonne nouvelle est adoptée. Marc mentionne au verset 14 que Jean-Baptiste a été arrêté. Il développera l'arrestation de Jean-Baptiste au chapitre 6. Mais c'est comme pour dire ici, le ministère de Jean-Baptiste s'achève. Voilà, il devait annoncer la venue. Maintenant que le Messie est là, son job s'arrête. Jésus alors s'en va en Galilée, où il aura une grande partie de son ministère, environ 2 ans et demi de son ministère auront lieu là, avec de nombreux miracles, des enseignements publics, avant de se rendre à Jérusalem pour y mourir sur la croix et ressusciter. La voix de Jean-Baptiste s'étant arrêtée, Jésus poursuit en prêchant, il nous est dit ici, l'évangile de Dieu. Et son message, il est en 3 points, comme les miens. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le temps est accompli. Il est en train de dire, ça y est, c'est l'heure que le monde attend depuis longtemps, le moment le plus important de toute l'histoire de l'humanité, la bonne nouvelle est là, elle est arrivée, Jésus-Christ est là. C'est comme l'a dit James Irwin en 1971, l'astronaute, « Le plus important n'est pas qu'un homme ait marché sur la Lune, mais que Dieu ait marché sur la Terre dans le corps de Jésus-Christ. » Et c'est cela la bonne nouvelle. Et puis il dit « Le royaume de Dieu est proche. » Le royaume est proche, ça signifie que le roi vient pour rétablir toute chose. Tout le monde l'attendait. Dans tout le temps où le roi Richard Cœur de Lion était loin de l'Angleterre, un mauvais roi tyrannisait l'Angleterre. Mais l'instant où l'on a su qu'il était proche, où savait qu'il allait rétablir la justice et l'équité, c'était une bonne nouvelle pour les sujets du roi Richard et une mauvaise pour les usurpateurs. Là, je sais qu'il y a des profs d'histoire dans la salle et toute mon histoire tient à Robin des Bois. Alors, vous avez saisi l'image. Jésus vient pour instaurer son règne en commençant par régner sur nos cœurs. En cela, le royaume de Dieu est proche aujourd'hui. Si vous reconnaissez que Christ ne règne pas sur vos cœurs, ce qui explique le chaos, la détresse spirituelle, la solitude, la peur, le vide que vous pouvez ressentir, alors vous pouvez reconnaître et lui demander de régner sur vos cœurs. Et pour cela, c'est son troisième point qu'il faut suivre. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Reconnaissez vos péchés et votre besoin de Christ comme sauveur. Et placez en lui votre confiance. C'est lui qui remporte la victoire pour vous sur le péché, le diable et la mort, en mourant à la croix et en ressuscitant d'entre les morts. C'est cela, adopter l'évangile, adopter la bonne nouvelle, c'est la recevoir, la prendre pour soi. Jésus s'est alors approché de Simon et André. Il leur dit, verset 17, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt, notez le « aussitôt », ils laissèrent leur filet et le suivirent. Vous avez remarqué, ce ne sont pas les disciples qui ont choisi Jésus. Habituellement, les disciples choisissaient leur maître, auprès duquel ils voulaient apprendre. C'est ce que vous faites, certains d'entre vous, en remplissant Parcoursup. C'est vous qui choisissez. Mais là, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui choisit ses disciples. Suivez-moi. Et ils ont considéré l'offre de Jésus comme plus désirable que leur métier de pêcheur. Peut-être vous vous dites, ouais, mais pêcheur à l'époque, ça devait être tellement galère qu'il fallait suivre Jésus. Pas certain. Regardez ce qui vient juste après. Il appelle Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Et eux, ils sont héritiers d'une entreprise familiale avec des ouvriers. Et pourtant, quand ils entendent « Suis-moi », ils laissent leur filet. Ils laissent leur père Zébédée et leurs ouvriers et ils le suivent. Jésus passe avant tout ça, avant ta carrière, avant tes études, avant ta famille. Si Jésus-Christ est vraiment Dieu, le Fils de Dieu, si vous les avez authentifiés comme tels, il n'y a pas d'autre place pour lui que la première. Hop, 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 hop. Ça sent un peu le fanatisme tout ça, non? Non. Si vous vous souvenez et comprenez la différence entre la religion et l'évangile. La religion, ce sont des conseils que vous suivez pour gagner une place auprès de Dieu. Alors, il faut faire des prières, des pèlerinages, des aumônes, il faut suivre des règles alimentaires, des rites. Dans ce cas, il faut aussi montrer que vous faites bien, que vous suivez les bons conseils, que vous méritez une place auprès de Dieu. Alors comment savoir? Mais en faisant mieux que les autres. Si vous faites mieux que les autres, c'est bon pour vous. Ça, c'est ce que disent les religions. Il faut faire mieux que les païens, mieux que les collecteurs d'impôts, mieux que les prostituées, que les gens de mauvaise vie. Ouais, fastoche. Ça vous laisse en compagnie de tous les religieux pratiquants. Alors il faut faire plus qu'eux. Plus de prières, plus de jeûnes, plus de pèlerinages. Et puis vous devez aussi dissimuler ce que vous faites mal. Et là vous devenez hypocrite. Vous cachez vos fautes, mais vous maximisez celles des autres. Eh oui, vous devenez plus critique et de plus en plus dur. C'est là où vous devenez fanatique. Mais l'évangile n'est pas une panoplie de conseils. Ce n'est pas une religion, c'est une bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin de gagner un accès à Dieu. Jésus l'a déjà gagné pour vous. Rien de ce que vous pouvez faire ne peut y ajouter. Et vous ne pouvez pas perdre parce que vous ne l'avez pas gagné. Mais vous voulez ressembler à Jésus. Il devient votre modèle. Vous ne cherchez pas alors à écraser les autres, mais à élever les autres. Ils ne sont plus une menace pour vous, des rivaux. Vous ne suivez pas des conseils, mais vous suivez le roi. Nous voulons être une église, ça c'est une de nos valeurs, nous voulons être une église qui annonce et vit passionnément l'évangile. C'est quoi une église qui vit passionnément l'évangile? C'est une église qui adopte l'évangile comme manière de vivre et comme raison de vivre. Vous avez remarqué, les disciples ont adopté l'évangile. Quelle autre attitude sensée pouvait-il avoir lorsque Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, le principe ultime de toute chose, leur dit « Suivez-moi !» Ils ont suivi. Adopter la bonne nouvelle, c'est cela, c'est suivre, c'est refuser de vivre comme autrefois, dans l'inquiétude, dans le besoin de tout contrôler, comme si Jésus n'était pas au contrôle. C'est refuser de vivre sous le poids de la culpabilité, comme si Jésus-Christ n'avait pas effacé la dette de nos péchés. Adopter l'évangile, c'est cesser de chercher ailleurs, parfois dans l'argent, le sexe, le succès, la carrière, la famille, mon bonheur ou mon identité, comme si Jésus n'était pas parfaitement bon et entièrement suffisant. Adopter l'évangile, c'est refuser de vivre dans la crainte des hommes, de leurs opinions, comme si je n'étais pas déjà accepté par le Créateur de l'univers, comme l'un de ses fils. Adopter l'évangile, c'est cesser de montrer ce dont je suis capable, comme si Jésus m'acceptait à cause de mes œuvres, ou à cause de mes mérites, de mes souffrances, de mes succès ou de ma persévérance, alors qu'il m'accepte à cause de sa grâce. Si Jésus est véritablement le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, et qu'il nous invite à le suivre, y a-t-il une autre attitude sensée que de le suivre précisément, de lui faire confiance ? Laissera-t-il tomber un de ceux qu'il aime dans cette année 2022? C'est impossible. Une bonne nouvelle se partage. On veut la vivre et on veut l'annoncer, la bonne nouvelle. L'évangile est fait pour être partagé. C'est le message de l'évangile qui sauve. Pas le messager, le message. Faites connaître le message. Priez que Dieu vous donne des opportunités pour partager le message. Toulouse compte 500 000 habitants et l'agglomération 1 million. Au mieux, 5 000 personnes étaient dans une église aujourd'hui à Toulouse. 495 000 Toulousains vivent sans Dieu et sans espérance dans ce monde. Des cœurs sont préparés pour entendre le message. Ils savent qu'ils sont prisonniers, aveugles, captifs du péché. Ils doivent entendre la bonne nouvelle. Et ça, c'est notre mission pour cette année encore, faire connaître l'Évangile. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire toute notre reconnaissance. Merci parce que nous avons une bonne nouvelle, parce que tu as déjà accompli l'œuvre. Tu as déjà sauvé nos âmes. Tu nous as déjà fait tes enfants pour l'éternité. Tu as déjà satisfait la justice du Père. Tu as montré en cela toute ta bonté. Ta suffisance, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. On n'a pas besoin de faire la démonstration de quoi que ce soit. On n'a pas besoin d'être meilleur que les autres. On peut simplement se réjouir de ce que tu nous as aimés, de ce que tu nous as sauvés, et d'adopter un nouveau mode de vie, Seigneur, cohérent avec le message. Apprends-nous, Seigneur, à adopter l'Évangile dans tous les domaines de notre vie. On te prie pour que dans nos relations de couple, de famille, dans nos relations de travail, au sein de notre Église, que l'on sache pratiquer l'Évangile, cette beauté, cette bonne nouvelle. Et Seigneur, donne-nous de l'annoncer avec joie, avec fidélité, avec persévérance, parce qu'on croit que tu prépares des âmes pour le salut, que tu as travaillé dans des vies, dans des cœurs, pour qu'ils reçoivent le message de l'Évangile. Seigneur, envoie-nous dans cette année 2022, notre Église, là où tu nous places, dans nos familles, dans nos quartiers, dans notre travail, pour être les témoins et de Jésus-Christ. Apprends-nous à te suivre, Seigneur, et à glorifier ton nom. Par Jésus, nous te prions. Amen.